Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Bye.
I'm Out to Fall, tel que la chanson avait été interprétée lors du Live Aid en 1985, avec ce petit passage vocal où Freddie Mercury fait également chanter la foule en introduction. Ce qui ouvre cette nouvelle heure de Soundtrack ce matin, et donc une séquence spéciale, je vous en avais parlé en début d'émission, consacrée à cet événement incontournable des années 80, que fut donc le Live Aid. Et la séquence, on la partage avec Laurent Riepy. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent. Ben oui, c'est voilà, quel événement mythique, hein. Ah ben. On se rappelle des images, des écrans de télévision rivés en fait vers ces deux destinations, hein. C'était assez magique comme concert. Hein.
Absolument. J'avais 13 ans. Vous, je pense, vous étiez un petit peu
plus
jeune.
J'étais un peu petit, mais c'est vrai que je les ai gardés par la suite. Hein,
c'est, on était tous scotchés devant nos écrans. C'était incroyable parce que c'est quand même, en quelque sorte, le plus grand concert du monde.
C'est ça.
Puisque donc il y avait cette scène qui était à Londres et l'autre scène qui était à Philadelphie, et tout ça retransmis par la magie du satellite déjà à l'époque, parce qu'on est quand même 40 ans en arrière.
On peut vraiment parler de magie parce que c'est des organisations qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est pratiquement, et c'est ce qu'on racontera avec Gabriel Davoin dans le podcast que vous allez découvrir tout cet été, en tout cas le mois de juillet, c'est que c'est improvisé, c'est une réaction de Bob Geldof, hein, qu'on connaît à travers les Bunda Rats, hein, I Don't Like Monday, c'est
oui, qui a d'ailleurs été dans une des séries de cette semaine, je crois que c'était de Éric Lenoir, Les Histoires Sombres du Rock.
Ah oui, l'histoire
où il parlait
derrière,
donc cette histoire de cette dame qui avait assassiné, enfin cette jeune fille plutôt, qui avait assassiné plusieurs personnes en disant qu'elle n'aimait pas les lundis. C'est heureusement que tout le monde ne fait pas pareil. Hein.
Oui, histoire assez sombre hein, derrière ce titre, effectivement, et Bob Geldof qui tout simplement va réagir comme des millions d'autres personnes derrière sa télévision aux images terribles qui arrivent à ce moment-là en 1984 par rapport à la situation en Éthiopie, une famine absolument incroyable. Il y a une infirmière, notamment une Britannique, qui est sur place et qui relaie les informations. On sait qu'à partir de 84, les dons commencent à venir d'un peu partout du monde pour venir en aide en Afrique. Mais lui, il est tellement touché par ça que qu'il se dit qu'il doit faire quelque chose en tant que musicien. Et la première chose qu'il va faire, c'est le morceau Do They Know It's Christmas, dont on va parler aussi dans le podcast. Et puis, il va se dire tout simplement, mais c'est pas suffisant, il faut aller encore plus loin. Et ce rêve qu'il va mettre en place, c'est ce grand concert, donc, comme on vient de le dire, dans deux endroits en même temps, en simultané, dans des conditions effectivement qui sont celles d'il y a 40 ans, où la synchronisation de la musique et on n'a pas Internet, il n'y a pas tout ça, etc. C'est un pari fou. C'est un pari complètement
très
dingue.
Osé, ouais.
Qui aurait pu capoter énormément de fois et qui finalement était une belle réussite, mais c'est presque une œuvre de foi, quoi. Il faut y croire. Il faut
tous ceux qui ont travaillé, là, ils ont dû faire un ouf de soulagement quand ça a été fini.
Ah, clairement, parce qu'en fait, finalement, dans l'histoire, des espèces de mondovision comme ça, il y en avait eu une notamment avec Elvis à Hawaï, on s'en rappelle. Il y avait eu le fameux All You Need Is Love des Beatles, hein, aussi en mondovision, qui était cet appel à la paix internationale à travers ce morceau. Mais ici, on parle d'un concert qui est qui va durer de très très nombreuses heures. On est presque, ce qu'on dit concert, c'est presque un festival. Quand on voit le nombre de musiciens qui jouent, ils sont très très nombreux à jouer sur scène, et ce sont aussi les plus grands. Donc ça aurait pu capoter. Il a fallu aussi négocier pour avoir tous ces gens.
Ah oui, tout à fait. Et puis alors là, c'est quand même aussi une preuve de la puissance de la musique et de la puissance du rock qui a déjà changé les choses, a changé le monde. Parce que si on remonte de 17-18 ans en arrière, on est dans les années 60, et là, on sait que ça a fait changer pas mal de choses, les mouvements hippies qui sont partis de San Francisco pour protester contre la guerre du Vietnam, etc. Et là, c'est encore un rassemblement de musiciens, d'artistes qui viennent en aide à une cause très importante, qui était donc la famine aussi. À ce moment-là, malheureusement, ça n'a pas été éradiqué. Mais ça prouve encore une fois la puissance du rock'n'roll, et il y a évidemment des moments très forts aussi dans ce concert.
Il y a des moments très forts, il y a évidemment des sets qui ont marqué plus que d'autres, hein. On pense à celui de Queen qui a été célébré dans le film.
Dans le film Bohemian Rhapsody.
Ouais. Même si dans l'histoire du film, il y a des approximations au niveau de la vérité, parce qu'en fait quand Queen arrive sur scène à ce moment-là, dans le film on nous fait croire que Queen n'existe plus, qu'ils se réunissent autour de ça, c'est pas du tout
c'est
le cas.
Pas ça,
en fait, il sort d'une tournée internationale qu'ils viennent de faire en 84, donc ils sont fatigués, mais ils vont donner toute leur force et toute leur énergie. Aussi préciser que contrairement à ce qu'il dit dans le film, eh bien, Freddie Mercury, enfin, en tout cas, ne sait pas du tout s'il est atteint du sida à ce moment-là. On ne diagnostiquera sa séropositivité que 2 ans plus tard. Ouais. Donc, en fait, il est en pleine forme. Et ça se voit, d'ailleurs.
Absolument.
Il est incroyable. Il crève l'écran, comme on dit.
Ce qui est d'ailleurs aussi admirable quand on voit le film, parce que toute la gestuelle qu'il avait sur scène est respectée par l'acteur, dont j'ai oublié le nom.
Rami Malek.
Oui, voilà. Donc, qui interprète le rôle de Freddie Mercury. Bref, donc, ce concert, ça a permis aussi d'avoir des duos inattendus, des choses exceptionnelles. Ça, on peut peut-être en parler aussi.
Mais oui, notamment, je pense que des duos, là, c'est sur la scène de Philadelphie, pas celle de Wembley, assez inattendus et tellement puissants, c'est Mick Jagger et Tina Turner. Alors là, on est quand même dans
la crème du rock'n'roll.
La crème de la crème, effectivement. Il faut savoir que c'est aussi une période un peu particulière pour Jagger, puisque on est dans une période où les Rolling Stones sont plus ou moins en pause. On sait que c'est pas une période facile entre Keith Richards et Mick Jagger. Mick Jagger va travailler sur un album solo, notamment, en ce moment-là. Ouais. Et donc, il apparaît sur scène en tant que Mick Jagger, et non pas en tant que les Rolling Stones. Et voilà, il est rejoint par Tina Turner, qui elle est au sommet de sa gloire en ce milieu des années 80, et leur interprétation de It's Only Rock'n'Roll est juste incroyable. On voit d'ailleurs que c'est extrêmement sensuel tout ça. On a l'impression qu'il a envie de arracher sa jupe. On sent qu'il y a beaucoup de sensualité entre les deux.
Ah, c'est quand même joué.
C'est un moment très, très rock'n'roll.
C'est vrai. Et on se replonge dedans parce qu'en plus, ce morceau, il y a 2 morceaux qui avaient été interprétés, qu'on va les écouter ici. Ça s'enchaîne. Ça commence avec ce State of Shock.
All right, where's Tina?
Sure. I love the way you walk.
You like that, baby?
State of Shock est donc enchaîné avec It's Only Rock and Roll, interprété donc de pair par Mick Jagger et Tina Turner. Alors, il y a eu des événements absolument incroyables. On pense à la prestation de U2, qui a été une des meilleures prestations, en tout cas pour l'époque. Ça avait fait un carton avec un... c'était Bad qui avait duré je sais plus combien de minutes.
Une version très longue, effectivement.
Très, très longue.
Et puis, toute la mise en scène, évidemment, le fait que comment Bono va danser avec une membre du public, ça va être des moments très très forts. Il y a aussi des groupes évidemment très new wave qui sont là, hein, tous les grands noms. On est en 85, comme Duran Duran, comme Spandau Ballet. Duran Duran qui malheureusement souffrira un moment, en tout cas il y aura une petite note fausse de la part de Simon Lebon qui va lui donner un petit peu une mauvaise réputation, le pauvre, hein, il n'en peut rien. Je pense que l'émotion a joué, il y a quelques petits couacs comme ça, ouais. Et puis aussi des moments inattendus comme notamment Paul McCartney, on en parlera évidemment beaucoup plus en détail dans le podcast,
ouais.
C'est que Paul McCartney, lorsqu'il va monter sur la scène du Live Aid, n'a plus été sur scène depuis très 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 longtemps, puisqu'il a arrêté de tourner après la fin des Wings, puis il y a eu cette arrestation au Japon qui va complètement le traumatiser, lui et sa famille, donc il ne tourne plus à ce moment-là, il n'est plus monté sur une grande scène depuis très très longtemps, et il a peur. Il a vraiment peur. Il se sent déjà peut-être pas au point pour quelqu'un qui a pourtant déjà une carrière absolument brillante derrière lui. Mais il a aussi peur puisqu'on est en 85, Lennon ayant été assassiné 5 ans auparavant. Il y a encore cette crainte chez les musiciens d'être menacé. Donc il y a vraiment, c'est pas facile pour lui, mais il se dit que la cause est bien plus importante que ses peurs. Et il va passer au-dessus de ses peurs pour donner une prestation avec les Teen Beats qui reste historique aussi.
Ouais, tout à fait. Peut-être quelques mots justement sur le podcast que vous avez réalisé avec Gabriel Davroy. Donc c'est un podcast que les auditeurs vont pouvoir retrouver sur antenne à partir de lundi. Mais bon, comme c'est un podcast, ce sera évidemment aussi téléchargeable sur notre site, sur Ovio, etc. Comment vous avez travaillé tout ça ?
Eh bien, on a travaillé avec une idée de retracer cet événement en 20 épisodes. Alors, quand on parle de l'événement, on va forcément faire le focus sur certaines prestations qui sont célèbres, mais aussi expliquer un peu les coulisses, comment ça s'est passé, comment ça s'est préparé, mais aussi quelles ont été les suites. Et notamment à travers des interviews plus récentes de Bob Geldof qui continue à rester quelqu'un d'extrêmement actif, qui est un petit peu dépité aussi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai que avec notamment en tout cas le fait que le US Aid, hein, qui est ce fonds d'aide américain qui vient en aide à énormément de pays dans le monde entier, a été quasi mis à terre par Trump et le gouvernement américain aujourd'hui, il est extrêmement en colère, et donc en fait cet esprit Live Aid reste vivace aujourd'hui. Mmh. On évoquera évidemment beaucoup le Live Aid, mais aussi vers la fin des épisodes, les enfants du Live Aid, les différents événements qui ont suivi. Et on pense notamment évidemment à ce moment assez incroyable, Live Aid.
La suite qui était arrivée, ça c'était en 2005 puisque c'était pour les 20 ans.
Et alors oui, cet événement qui s'appelait 8 aussi en fonction du G8, des sommets et des responsabilités de tous ces leaders politiques par rapport à ce qui se passait dans le monde, ce qui se passe toujours aujourd'hui. Et ce moment complètement inattendu, Bob Geldof a réussi à réunir Pink Floyd et ça...
Ouais.
C'est incroyable.
Mais ça, on va y revenir après. Ici, donc, vous parliez on parlait du podcast. C'est 20 épisodes. Je vais me faire un petit peu impertinent. Pourquoi pas 21?
Ça aurait pu, mais après, je pense que on en fait par semaine, donc une semaine faisant 5 jours.
Ouais. On peut pas faire des semaines de 6 jours.
Ouais. Ça aurait été bizarre. On aurait fallu faire une version extended le samedi, mais c'est vrai que ça aurait pu, pourquoi pas. Et alors aussi, par rapport à l'extrait qu'on va écouter dans quelques instants, un mot sur la prestation de David Bowie. Alors ça, c'est assez intéressant puisque Bob Geldof a donné beaucoup d'interviews cette année par rapport à cet anniversaire, et il explique que contrairement à ce qu'on a cru pendant très longtemps, et contrairement à ce qui est dit dans le film sur Queen, ce n'est pas la prestation de Queen, même si elle est formidable, qui va
faire chauffer les standards.
Exactement, celle qui va vraiment faire exploser les standards. C'est la prestation de David Bowie avec un groupe qu'il va improviser à ce moment-là, puisque il n'est pas vraiment en tournée, donc il va vraiment appeler des amis comme ça, et donc ça va se mettre en place un petit peu en dernière minute, mais ça va être très très solide. Et ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que c'est pendant qu'il va interpréter le morceau Heroes, qui a une grande signification ici aussi en tant que morceau caritatif, c'est à ce moment-là que le standard va exploser, et aussi c'est à ce moment-là que Bowie va avoir cette idée de supprimer un morceau de son set, parce qu'en fait son set devait faire un morceau en plus, mais s'il jouait un morceau en plus, le petit documentaire sur l'Éthiopie ne passait pas, et il l'a vu, il a trouvé tellement important de le diffuser et tellement important pour que tout le monde soit au courant de cette situation terrible là-bas en Éthiopie, qu'il va sacrifier un de ses morceaux, et ce sera aussi quelque chose, un acte généreux, et qui montre à quel point il était investi dans cet événement et dans sa signification et dans son impact.
Ouais, et ce fut tout à fait à son honneur. On va écouter ça.
Classique 21, Soundtrack.
I'd like to thank and introduce my band, who got together so quickly to do this show for me. I'm forever in their debt. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Conti. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena and Teresa Sprint. And on synthesizers and keyboards, the very brilliant Thomas Dolby. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I could be king, and you could be my queen. For nothing could drive them away. How we could beat them just for one day. We could be heroes just for one day. And I wish I could swim like dolphins can swim. We love us, and that is the fact.
years, as though nothing could fall. I'm ashamed. The world's on the other side. Are we convinced? Just for one day.
David Bowie à l'instant avec donc cette version live de Heroes interprétée au Live Aid, hein, dont ici nous fêtons les 40 ans déjà. Donc cette prestation, vous l'expliquiez Laurent, où il y a eu donc aussi la diffusion de ce documentaire sur l'Éthiopie et qui évidemment a fortement ému David Bowie, et ça on le comprend très très facilement. Alors évidemment, on en parlait encore il y a quelques instants, c'est donc la réédition pour les 20 ans de cet événement, donc en 2005. Là, c'était rebelote, mais là, il y a eu plus que deux scènes, parce qu'il y avait de nouveau une scène à Londres, de nouveau une scène à Philadelphie, mais il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres, alors peut-être qu'on peut dire que effectivement cet événement de 2005, même si on s'en rappelle et qu'il y avait aussi ce phénomène de mondiovision, etc., avait un côté peut-être un peu moins exceptionnel, puisque on était déjà dans l'ère d'Internet, dans un monde beaucoup plus connecté, et donc ça avait un côté peut-être un peu moins magique, et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui on s'en rappelle un petit peu moins, ça a eu un peu moins d'impact, mais quand même c'était une belle façon pour Geldof de célébrer l'anniversaire de ce live-aid original, et puis surtout, effectivement, cette réunion de Pink Floyd, personne n'aurait pu réussir à mettre David Gilmour et Roger Waters sur la même scène, à part Bob Geldof, hein, ça, on est d'accord.
Ça n'a pas été facile. Mais alors, c'est assez, on va dire, symbolique, parce que en 1985, le groupe venait pratiquement de se séparer.
Ouais,
et donc, la guerre était très, très forte entre les deux protagonistes, donc Roger Waters et David Gilmour. Et puis là, boum, ils se retrouvent sur scène. Mais bon, j'ai eu l'occasion de fouiller un petit peu, et au dire de David Gilmour, l'ambiance, même en répétition, n'était pas super top, parce que Roger Waters retrouvait ses travers, c'est-à-dire qu'il voulait tout diriger.
Ben oui, comme à son habitude, on sait qu'il est comme ça. Et c'est vrai que vous en parliez, dans le Live Aid de 85, David Gilmour était sur scène, lui.
Il était avec Roxy Music.
Avec Brian Ferry, effectivement. Ouais. Et il y a des photos qui montrent aussi que Roger Waters était là backstage. Il n'a pas joué. Donc ils ont peut-être dû se croiser. L'ambiance devait être assez particulière.
C'est électrique.
Mais voilà, en tout cas, Geldof a réussi quelque chose un sacré coup de poker, et bravo à lui de nous avoir permis en fait de voir une dernière fois Pink Floyd au complet, avec Rick White aussi qui nous a quittés quelques années plus tard. C'était un moment magique quand même.
Et donc si vous avez le DVD, enfin moi j'ai la chance d'avoir le coffret chez moi, si vous avez le DVD, on voit vraiment les mines ravies des personnes du public en train d'admirer cette reformation totalement inespérée, et ça a été du pur bonheur. On va refermer avec ça, et avec justement là cette version de Comfortably Numb qui date donc de cette réédition du Live 8. Ça fait drôle de dire la réédition, mais plutôt cette édition anniversaire donc qui avait eu lieu en 2005. On se retrouve après les vacances, Lolo.
Après les vacances, d'ici là, passez de très bonnes vacances.
Laurent. Très bonnes vacances.
Les auditeurs, tout le monde, profitez un max du soleil et du rock'n'roll.
Effectivement. Et donc, je rappelle que on peut vous retrouver donc avec ce podcast consacré au Live 8 à partir de lundi sur l'antenne de Classic 21.
Your lips move, but I
Pink Floyd, la réunion exceptionnelle, et c'était la seule, hein, donc ici pour les 20 ans du Live Aid, et donc la reprise ici de Comfortably Numb. Il y avait aussi Wish You Were Here qui avait été interprété, et alors celui qui tenait la basse ici dans ce morceau, c'est Tim Renwick. Tim Renwick, moi j'ai toujours une grande admiration pour ce personnage, parce que c'est un musicien de l'ombre, mais c'est un excellent guitariste, et qui accompagnait aussi de David Gilmour, donc sur les tournées Pearl, c'est déjà aussi dans les années 80, donc et alors à l'époque du Live Aid, il était déjà là, mais il était parmi les musiciens d'Eric Clapton. Donc là, en 1985, lorsqu'il jouait sur scène la seconde guitare, c'est tenu par ce monsieur qui s'appelle donc Tim Renwick, et son visage, quand on le voit, il ressemble un petit peu à Philippe Gildas. Ouais, voilà.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.